Et c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. C'était son arme de communication massive. Donald Trump, privé de Twitter. Le réseau social lui règle son compte. Suspendu définitivement. Terminer les messages en majuscules et en points d'exclamation comme un coup de grâce à 11 jours de l'investiture. Le Covid est le variant qui fait des ravages au Royaume-Uni. Un Londonien sur 20 dans certains quartiers infectés. Plus d'un millier de morts en 24 heures. Une capitale en état d'urgence où les policiers conduisent les ambulances. Un variant découvert en France, à Bagneux, près de Paris. Dépistage massif pour les habitants à partir d'aujourd'hui. Couvre-feu avancé à 18h dès demain à Strasbourg. 9 autres départements pourraient suivre. Et puis notre esprit sport, consacré ce matin à une super-héroïne, doyenne des championnes olympiques. Elle fête ses 100 ans aujourd'hui.
Et à 8h20, notre invité, ce sera Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
France Inter. 2 jours après l'assaut du Capitole, Twitter lui coupe la chic. C'était sa caisse de résonance, son passe aussi pour entrer à la Maison Blanche. 89 millions d'abonnés, Donald Trump sans Twitter, ça sent la fin. À 11 jours de l'investiture de Joe Biden, le réseau social a donc suspendu son compte définitivement. On retrouve notre envoyé spécial à Washington, Franck Madvon.
Il a fallu changer ses habitudes, Donald Trump a réagi par un simple communiqué. Twitter veut me faire taire, moi et vous, les 75 millions de grands patriotes qui avaient voté pour moi. Trump dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Il dit négocier avec d'autres sites et réfléchir à la création d'une nouvelle plateforme. Il promet une annonce majeure bientôt. En attendant, il est réduit au silence. Twitter a pris sa décision après la publication de 2 tweets hier. Le premier pour rendre hommage à ses supporters, des patriotes. Le second pour annoncer qu'il ne sera pas présent lors de l'investiture de Joe Biden. Des messages de nature a entraîné de nouvelles violences, selon Twitter. Trump a tenté de contourner l'interdiction, mais les tweets publiés par exemple sur le compte officiel du président ont été aussitôt supprimés. Le réseau social a cédé aux pressions. Beaucoup d'employés de Twitter notamment réclamaient cette suspension. Donald Trump perd son mégaphone. Il avait dit en 2017 « Sans Twitter, je ne saurais pas où je suis ». Washington, Franck Madvon, France Inter.
Et Donald Trump ne pourra pas se rabattre sur Facebook, Snapchat ou autre Instagram. Tous ses comptes ont été suspendus cette semaine pour une durée indéterminée. Idem pour ses partisans les plus farouches, privés de leur réseau social préféré, Parler, une plateforme que Google vient de supprimer. Quant à son absence pour l'investiture, énorme entorse à la tradition, c'est une bonne chose, réagit Joe Biden hier soir, qui ajoute le moyen le plus rapide pour voir Trump quitter le pouvoir, c'est d'attendre le 20 janvier. Joe Biden pas favorable, semble-t-il, à une procédure de destitution que les démocrates pourraient lancer dès lundi. Enfin, une image à retenir, celle d'un Capitole drapeaux en berne, à l'image d'un pays traumatisé, 5 morts dans l'assaut du Congrès, dont une policière blessée qui a succombé à ses blessures hier. Côté enquête, 15 personnes inculpées. D'autres arrestations pourraient suivre, a prévenu le ministère de la Justice. Pendant ce temps, le Covid continue de galoper. Près de 30 000 cas en 24 heures aux États-Unis. Triste nouveau record. Pour vous donner une idée, à Los Angeles, une personne meurt du Covid toutes les 15 minutes. L'épidémie qui gagne du terrain partout. 25 000 nouveaux cas en Allemagne. Première fois en Suède que restos et commerces vont fermer. Nouvel état d'urgence aussi pour un mois dans le Grand Tokyo, au Japon. Et situation plus que critique au Royaume-Uni.
Oui, avec 1300 morts en une seule journée, le variant du Covid fait décidément des ravages.
La situation est totalement hors de contrôle. Certes, les Britanniques vaccinent à tour de bras, mais les effets vont prendre du temps. Après la deuxième injection, il faut encore plusieurs jours avant d'être immunisé. Et voilà Londres, notamment, dans l'œil du cyclone. Capitale en état d'urgence, hôpitaux saturés dans un pays reconfiné. Sur place pour France Inter, Richard Place.
Des pompiers et des policiers qui se retrouvent au volant d'ambulance, c'est le seul moyen pour répondre aux 8 à 9 000 appels quotidiens à Londres. En temps normal, la moyenne se situe autour de 5 000. Un Londonien sur 30 est infecté. Dans certains quartiers, c'est 1 sur 20. À ce rythme, les hôpitaux ne tiendront pas plus de 15 jours sans crouler sous la charge, d'où cet appel du maire de Londres, Sadiq Khan, après avoir échangé avec des médecins et des infirmières. Ils sont stressés, à bout de force, ils sont héroïques. Nombre d'entre eux sont traumatisés par ce qu'ils ont vu. On m'a dit que ça ressemblait à des scènes que l'on voit en temps de guerre. C'est pour ça qu'il est si important de comprendre que la manière la plus efficace et la plus simple de les aider, c'est de rester chez soi, à moins d'avoir une bonne raison de sortir. Et si c'est le cas, porter un masque. Car le port du masque en extérieur ici n'est pas obligatoire. Le pays a beau être sous confinement depuis mardi, le troisième en moins d'un an, les chiffres ne baissent pas. Au contraire, ils s'envolent. D'où l'empressement des autorités pour mettre en place une ambitieuse campagne de vaccination. 1,5 million de Britanniques ont déjà reçu au moins une dose. Une nouvelle étape débute la semaine prochaine avec l'ouverture de 7 grands centres dans tout le pays pour vacciner à la chaîne. Londres, Richard Place, France Inter.
Et ce variant britannique, le voici en France. Premier cas sans lien visible avec l'Angleterre. Une personne qui a travaillé pendant les vacances de Noël dans deux écoles de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. La ville organise en urgence, à partir d'aujourd'hui, un dépistage massif. Un seul but, savoir à quel point cette variante du virus circule. Bien sûr, le seul moyen, on le sait, c'est un séquençage du génome du virus. Encore faut-il repérer en amont les cas suspects. Et ça, dans les laboratoires, Véronique Julia, ce n'est pas si simple.
Les tests PCR faits en laboratoire, il en existe une grande variété, plus d'une vingtaine. Chaque laboratoire a fait son choix sur le marché et décidé d'utiliser telle ou telle marque. Et chacune a une technique qui lui est propre. Pour reconnaître le virus, ces tests ciblent selon les cas 2 à 3 gènes caractéristiques du virus. Quand les 2 ou 3 gènes ciblés sont reconnus dans l'échantillon nasopharyngé, le test vire positif. Le variant anglais, lui, a une mutation qui porte sur la protéine S. Si le test utilisé cible cette protéine et qu'on a affaire au variant, le test peut dans ce cas ne pas reconnaître la protéine et donner un résultat ambivalent. Il mérite dans ce cas d'être envoyé au séquençage. Lionel Baran est biologiste.
Si on a une technique qui cible la protéine S et une autre protéine et qu'on a la protéine S négative mais les autres protéines positives, c'est un signal pour dire attention, on est peut-être face au variant, il faut le séquencer.
Une marque en particulier, le test Thermo Fisher, cible précisément la séquence où se trouve la mutation du variant britannique. Elle ne serait malheureusement utilisée, cette marque, que par une minorité de laboratoires en France. Les échantillons des patients testés positifs et qui reviennent de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud sont de leur côté systématiquement envoyés au séquençage.
Véronique Julia, parallèlement, la campagne vaccinale monte d'un cran. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné ses chiffres hier soir, plus de 80 000 soignants et résidents en EHPAD ont été vaccinés depuis lundi. 36 000 rien que sur la journée d'hier. Près de 170 centres ouverts également dans toute la France. L'Union européenne a quant à elle doublé sa commande de vaccins Pfizer, 300 millions de doses supplémentaires. Rien à voir avec nos voisins britanniques pour l'instant, mais les chiffres en France aussi sont en hausse. Près de 20 000 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures. Les bars, les restos, les théâtres fermés, sans lumière au bout du tunnel. Il est question aussi d'avancer le couvre-feu à 18 heures à partir de demain soir dans une dizaine de nouveaux départements. Le Bas-Rhin a déjà rejoint la liste, mais pour les Bouches-du-Rhône ou la Haute-Savoie, rien de tranché, les discussions sont toujours en cours. En Côte d'Or également, François Sauvadet, le président du conseil départemental, plaide pour une distinction entre ville et campagne.
Qu'on fasse un couvre-feu à 18 heures, ça se comprend en milieu urbain, en milieu aggloméré, pour éviter les rassemblements, les moments un peu plus festifs, les apéros, etc. Mais en milieu rural, ça, là où le risque pandémique est beaucoup moindre, ça pose un vrai problème. Quand vous travaillez, que vous rentrez, bon, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Mais si vous voulez faire simplement votre course pour aller chercher le pain, comment vous allez faire? Le déplacement, c'est pas à vélo que ça se fait. Hein. Ça se fait avec une voiture. Et ce sont souvent des déplacements qui sont longs. Pour avoir accès simplement à un service, aller récupérer son enfant, on fait des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Je dis simplement qu'on doit adapter la mesure de couvre-feu au risque pandémique. Quand vous êtes dans une ferme isolée, le fait de rentrer à 20h ou à 18h ne va pas changer sur l'évolution de la pandémie. C'est ça que je souhaiterais voir adapté.
François Sauvadet, le président de la Côte d'Or. Et puis ce ne sont plus des trous, mais des gouffres. L'impact économique du Covid chez Airbus, les 2/3 des commandes d'avions neufs se sont effondrées. Autre exemple, autre secteur, le Louvre, avec une baisse de la fréquentation l'an dernier de 70%. Perte estimée à plus de 90 millions d'euros quand l'aide de l'État plafonne à 46 millions.
Le président et les 2 vice-présidents du Conseil français du culte musulman seront reçus aujourd'hui, chacun en tête-à-tête avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
En ligne de mire, la création d'un Conseil national des imams, la rédaction aussi d'une charte pour rappeler les valeurs de la République à chaque mosquée. Fin décembre, le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait abandonné ce projet. Il dénonçait la composante islamiste au sein du CFCM. Maxence Lambrecq, le gouvernement, lui, y croit toujours et compte même très fort sur un compromis.
Dépasser les divergences, aboutir à un accord, c'était encore le message d'Emmanuel Macron avant-hier lors de ses vœux aux autorités religieuses. Le président ne s'avoue pas encore vaincu. Cet engagement sur la formation des imams et le respect de cette charte constitue l'un des piliers de sa stratégie de lutte contre l'islamisme radical. Mais faut-il revoir l'ambition, la portée de ce texte pour rassembler toutes les fédérations du CFCM, y compris les Turcs les plus sceptiques? Non, le ministre de l'Intérieur préfère que deux ou trois fédérations signent un texte qui respecte clairement les valeurs de la République, plutôt dit-il qu'une mouture light signée par tous les participants d'une photo de famille. Les tête-à-tête d'aujourd'hui vont donc permettre d'identifier ceux qui veulent négocier, jouer le jeu, et ceux qui refusent cet encadrement jugé liberticide. Gérald Darmanin ne veut cependant bousculer personne. Le projet de loi renforçant les principes républicains ne sera débattu à l'Assemblée qu'au début du mois de février. Et ce travail parallèle indépendant prendra le temps nécessaire, assure un conseiller du ministre. Emmanuel Macron n'a pas fixé d'échéance.
Maxence Lambrecq, fin de la première semaine d'un procès fleuve, celui des ravisseurs de Jacqueline Vérac, 80 ans, riche et discrète propriétaire hôtelière de la Côte d'Azur. Il y a 4 ans, 3 hommes l'ont enlevée et séquestrée dans une camionnette pendant 48 heures. Jacqueline Vérac a réussi seule à s'échapper. 2 jours de cauchemar, elle n'en avait jamais reparlé. Jusqu'à hier, devant la cour d'assises de Nice, Corinne Audouin était là. Elle nous raconte ce témoignage poignant.
Elle est une des plus riches propriétaires de la Côte d'Azur, prise au cœur d'une affaire criminelle hors norme, mais ça n'a pas l'air de monter à la tête de Jacqueline Vérac. Élégante, calme et souriante, la vieille dame considère qu'elle a eu de la chance, même quand Giuseppe Serena, le cerveau supposé de la bande, déclare avec théâtralité qu'il s'excuse et l'embrasse, tout en assurant n'avoir rien fait, sinon trop parlé. Elle ne se départit pas de sa tranquille assurance. Luc Febraro, son avocat, salue une grande dame.
C'est une femme d'une noblesse extraordinaire. Vous avez vu la modération de son propos. Elle ne sait pas ce que c'est que la haine. D'ailleurs, elle l'a dit et redit, elle n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu être l'objet d'un tel ressentiment, d'une telle férocité, parce qu'elle a vécu ça. En tout cas, M. Serena, il a voulu lui dire quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance d'une implication au moins morale dans l'histoire. Bon, c'est déjà un premier pas.
Un début peut-être de reconnaissance à demi-mot qui a pu apporter du soulagement à Jacqueline Vérac. Elle dit avoir tout fait pour aider le gérant de son restaurant, mais il n'écoutait pas, il avait la grosse tête, a-t-elle expliqué. Je pense que ça le vexait beaucoup de n'avoir pas réussi. Nice, Corinne Audouin, France Inter.
Et le procès doit durer jusqu'au 29 janvier. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, à son tour mise en examen dans l'enquête sur la disparition de Lydie Loger dans l'Orne en 93. Le corps de la jeune femme de 29 ans n'a jamais été retrouvé. Enfin, Michael Apted est mort. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il a dirigé de nombreuses stars. Sigourney Weaver, Jodie Foster, Michael Douglas ou encore Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, James Bond, dans Le Monde ne suffit pas, du britannique Michael Apted, qui signe aussi en vrac un Gorille dans la brume, Cœur de tonnerre, Nell, ou encore la série Rome. Michael Apted avait 79 ans.
Allez, on change de registre, on va parler de sport.